Avoir Jésus comme refuge. C'est le sujet de la réflexion de ce matin. Qu'est-ce qu'un refuge ? Un refuge, vous serez d'accord avec moi si je propose comme définition que c'est un endroit, un lieu dans lequel on se retire, un lieu qui est recherché pour fuir, pour échapper à un danger, un lieu où on est en sécurité. Un lieu, un endroit où nous sommes à l'abri. Et nous allons lire deux textes dans la parole de Dieu où nous trouvons précisément une zone de refuge. Une zone de refuge. Et le premier texte nous amènera à lire, en principe, il faudrait lire tout le chapitre 35, mais je vais essayer de sauter quelques passages parce que ça nous amènerait à une lecture peut-être trop importante. Donc, c'est pas. J'ai dit quoi comme livre ? Ah, ça va. Nombre. Nombre. J'allais dire, c'est pour voir si vous écoutiez, mais non, ça ne marche pas. Nombre 35. Ce que je n'aurais pas lu comme verset, je l'expliquerai pas après dans le développement, à partir du verset 6. « Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, donc Nombre 35, verset 6, « Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, vous donnerez 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier et 42 autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs abords. » Les villes que vous donnerez sur les propriétés des Israélites seront livrées en plus grand nombre par ceux qui en auront le plus et en plus petit nombre par ceux qui en ont moins. Chacun donnera de ces villes aux Lévites à proportion de l'héritage qu'il aura reçu. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux fils d'Israël et tu leur diras « Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez rentrés en Canaan dans le pays... Et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, verset 11, vous déterminerez des villes qui soient pour vous des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant la communauté pour être jugé. » Verset 13, des villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce sont des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux Israélites, à l'immigrant et aux résidents temporaires, au milieu de vous. Il pourra s'enfuir. Pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que mort s'en suive, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe en tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que mort s'en suive, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe en tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que mort s'en suive, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier quand il le rejoindra et il le fera mourir. Verset 20. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que mort s'en suive, ou s'il le frappe de sa main par inimitié, et que mort s'en suive, celui qui a frappé sera puni de mort, c'est un meurtrier, le vengeur du sang fera mourir le meurtrier quand il le rejoindra. Mais si un homme pousse son prochain fortuitement, et non par inimitié, ou s'il jette quelque objet sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort et que mort s'en suive sans qu'il soit son ennemi et sans qu'il lui cherche du mal. Voici les principes d'après lesquels la communauté jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. La communauté délivrera le meurtrier de la main du vengeur de sang, dans le cas donc d'un homicide involontaire. La communauté le fera retourner dans la ville-refuge où il s'était enfui et il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort des limites de la ville de refuge où il est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors de la ville de refuge, et que le vengeur du sang tue le meurtrier, il ne sera point coupable du meurtre. Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Après la mort du souverain sacrificateur, le meurtrier pourra retourner dans sa propriété. Bon, on va pas terminer la fin du chapitre et on va passer au livre de Josué, chapitre 20. On ira à partir des versets 2 jusqu'au verset 9. Josué. Josué juge Ruth, chapitre 20, 2 à 9. Parle aux Israélites, dis-leur, établissez pour vous les villes de refuge dont je vous ai parlé par l'intermédiaire de Moïse. Le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, par mégarde, pourra s'y enfuir. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et ils lui donneront un endroit pour résider avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront pas le meurtrier entre ses mains, car c'est par mégarde qu'il a tué son prochain, et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu en jugement devant la communauté, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kedès en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, et Kiriat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils désignèrent Betser dans le désert, sur le plateau dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galate dans la tribu de Gad, et Golan et Bassan dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes assignées à tous les Israélites et à l'immigrant en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement s'enfuit et qu'il ne meure pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant la communauté. Jusque-là, la lecture. Dans la Grèce antique, les temples servaient de lieu de refuge essentiellement pour les prêtres. Sous l'Empire romain, les temples étaient aussi considérés comme des lieux d'asile. Donc les Romains exerçaient, à leur époque, le droit d'asile. Le droit d'asile romain qui va se télescoper avec le droit d'asile chrétien dès le IVe siècle. Pour rappel, un petit peu d'histoire, en 313, après la conversion de l'empereur Constantin au christianisme, les persécutions sous l'édit de Milan ont cessé. Et en 392, sous l'empire Théodose, l'asile chrétien va être considéré comme légal, va être officialisé dans l'Empire romain au même titre que la religion chrétienne par ailleurs, qui va devenir une religion d'État. Alors, Théodose donc va reconnaître officiellement l'asile chrétien. L'Église à cette époque-là est considérée comme un endroit sacré, un endroit inviolable, et elle accueille les opprimés, les esclaves fugitifs ou encore les réfugiés. Alors, voulant rompre avec l'asile païen des Grecs et des Romains, le droit d'asile va changer de nom pour devenir l'expression ad ecclesiam confugere, c'est-à-dire, vous savez pas, se réfugier dans l'Église. Se réfugier dans l'Église. L'asile chrétien ne permet pas cependant d'échapper à la justice, mais il permet de protéger le coupable éventuel de la violence et d'une vengeance privée, d'une vengeance personnelle. Au 8e siècle, et nous allons clôturer le petit passage historique, au 8e siècle, Charlemagne va apporter encore plus de rigueur au droit d'asile chrétien en excluant tous ceux qui étaient reconnus coupables d'un délit quelconque, d'un crime quelconque. Donc, l'Église restait à cette époque un droit d'asile exclusivement réservé aux personnes qui étaient ou qui restaient opprimées, persécutées, et aussi à ceux qui étaient dans l'attente d'un procès. Mais bien avant toutes ces civilisations, le droit d'asile, les zones de refuge existaient déjà en Israël, comme nous l'avons lu, et portaient le nom de ville-refuge. Ville-refuge. Après les 40 années de pérégrination du peuple d'Israël sorti du pays d'Égypte, le peuple arrive enfin à l'entrée du pays de Canaan en terre promise. Là, le territoire va être partagé entre les tribus d'Israël. Seule la tribu des Lévites ne bénéficiera pas de territoire, elle n'héritera pas de terre en pays promis. Deutéronome chapitre 18 verset 2 nous dit que l'Éternel est leur héritage. C'était une race de prêtres, enfin une catégorie de personnes qui s'occupaient de la prêtrise et de la sacrificature en Israël. Ils n'avaient pas de territoire en Israël, mais ils ne perdaient pas nécessairement au change. Pourquoi ? Eh bien parce que d'une part, ils bénéficiaient de la dîme de toutes les récoltes des enfants d'Israël, ainsi que la viande qui était offerte en sacrifice, d'une part, et d'autre part, eh bien, ils bénéficiaient, on leur avait aussi attribué 48 villes éparses sur le territoire des tribus d'Israël, des 12 tribus d'Israël, entourées d'un certain périmètre de terre et de pâturage où ils pouvaient éventuellement faire paître l'une ou l'autre bête. Alors, de ces 48 villes, comme on l'a lu, il y en avait 6 qui étaient consacrées comme étant des zones refuges, des villes refuges, dans lesquelles les auteurs d'homicides involontaires, donc ceux qui avaient commis un meurtre, mais tout à fait fortuitement, sans le vouloir, étaient acceptés, étaient admis. Il y avait 3 villes refuges qui se trouvaient à l'est du Jourdain et 3 autres villes refuges qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain. Elles étaient réparties de telle façon à ce que tous les membres de chaque tribu puissent rejoindre le plus facilement possible une ville refuge qui était la plus à proximité de chez eux. Alors, dans la législation de notre pays, on fait quand même une différence. Les sanctions décernées en cas d'homicide varie fortement si l'homicide a été volontaire ou pas. Un bête exemple, s'il y a un cambrioleur ou un voleur ou un bandit qui rentre dans une banque et qui, équipé, armé d'un fusil, tue un employé qui est là au guichet, eh bien, sans doute qu'il va échapper à la peine de mort dans notre pays, en tout cas, Mais il devra néanmoins passer quelque temps, si pas un temps certain, dans la prison pour avoir ôté la vie d'un innocent. C'est un homicide qu'on appelle volontaire. Il a été prémédité, il a été voulu. C'est un homicide volontaire. À côté de ça, si un automobiliste renverse un piéton qui passe au rouge et que s'ensuit la mort de ce piéton, eh bien, l'homicide envisagé dans ce cas-là sera considéré comme un homicide involontaire. L'automobiliste n'a pas fait exprès de renverser et de tuer l'infortuné. Ça sera considéré comme un homicide involontaire. Et la peine qu'encourra celui qui sera l'auteur de cet homicide involontaire sera beaucoup plus légère que celui qui aura commis l'homicide volontaire, si pas inexistante. Ça sera peut-être juste marqué sur son casier judiciaire. Mais en Israël, ce n'était pas la même chose. Les deux formes d'homicide, volontaire ou involontaire, étaient passibles de mort. Qu'on l'ait fait exprès ou qu'on ne l'ait pas fait exprès de tuer quelqu'un, la sanction était la même. C'était la mort qui attendait le coupable, le meurtrier. N'oublions pas que, à cette époque-là, c'est la loi du talion, Deutéronome chapitre 19, verset 21, qui prévaut. 100%, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main. La loi du talion. Lorsque quelqu'un provoquait par inadvertance ou volontairement la mort d'une personne, le plus proche parent de la victime, ça pouvait être un frère, un cousin ou un père, eh bien, avait le droit de poursuivre le meurtrier et de verser son sang. On appelait cette personne, proche parent de la victime, comme nous l'avons lu par ailleurs, le vengeur de sang, le vengeur du sang. Il avait le droit de venger la mort de son proche parent en tuant son meurtrier, et ce, peu importe que l'homicide soit voulu ou qu'il ne l'ait pas fait exprès. Cela nous aurait semblé bien injuste. C'est vrai, c'est pas juste. Si Dieu n'avait ouvert une porte de secours en faveur de celui qui avait commis un homicide involontaire. Et cette porte de secours lui permettait au meurtrier involontaire d'échapper au vengeur du sang en se rendant dans l'une de ces six villes refuges établies en terre d'Israël. Et là, dans cette cité-refuge, l'homme était en sécurité. Il était inattaquable. Il était sous protection. Alors le but de ces villes-refuges, d'une part, c'était de protéger le coupable involontaire du vengeur du sang, et d'autre part, c'était aussi protéger le vendeur du sang de répandre le sang d'un innocent en terre d'Israël. La durée de l'exil, la durée de la mise à l'écart du meurtrier accidentel se poursuivait jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qui était établi dans la ville de refuge dans laquelle il se trouvait. À la mort du souverain sacrificateur, le coupable était amnistié. Il était libéré et pouvait rentrer chez lui, retrouver ses terres, retrouver sa famille éventuellement. S'il sortait en déant cette échéance, alors il était de nouveau à la merci du vengeur du sang, exposé au vengeur du sang. Allez, alors parmi les cas envisagés de mort accidentelle, il y avait, nous l'avons lu, la mort tout d'abord qui était provoquée par une bousculade involontaire, maladroite. Deux personnes qui étaient, par exemple, sur la terrasse d'un toit. Il y en a un qui laisse tomber un objet Et en s'abaissant, il bouscule l'autre, qui est déséquilibré, qui tombe du haut de la terrasse sur laquelle il se trouve et qui se tue. C'est un cas d'homicide involontaire. Et puis, un autre cas d'homicide involontaire envisagé dans les textes que nous avons lus, c'est, par exemple, un maçon qui est en train de construire un mur et qui, du haut de son échafaudage, laisse tomber une pierre qui, malheureusement, va fracasser le crâne d'un malheureux passant. C'est un cas, encore une fois, d'homicide involontaire. Et Deutéronome chapitre 19, que nous n'avons pas lu, nous donne encore un autre exemple d'homicide involontaire. C'est deux personnes qui s'en vont en forêt pour couper du bois. Alors il y a un bûcheron qui commence à fendre du bois avec sa hache. Et malheureusement, par négligence peut-être de la part du bûcheron qui travaille, le fer glisse hors du manche en bois et va percuter malencontreusement la tête de son collègue bûcheron. Et mort s'ensuit. C'est encore un cas d'homicide involontaire. Alors pour toutes ces causes d'homicide involontaire, celui qui était coupable, le meurtrier involontaire, celui qui ne l'avait pas fait exprès, avait droit d'aller se réfugier dans l'une des civils refuges, là où il était en sûreté, en sécurité, inattaquable. Application par rapport à ce texte. Mais qu'est-ce qu'on peut, nous, en tant que chrétiens, tirer comme enseignement de ces textes que nous avons lus ? Quel enseignement pouvons-nous tirer de ces lectures, de ces textes ? Rappelons-nous que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que bon nombre d'éléments de choses contenues dans l'Ancien Testament sont des ombres et des figures des réalités célestes. Ombres et figures des réalités célestes. Exemple, la manne, tu en as fait tantôt allusion, la manne, ou c'est Francis dans sa prière, je ne me souviens plus, la manne est une figure de quoi ? De quoi ? Vous n'êtes pas sûr ? La manne est une figure de la parole de Dieu qui nous nourrit, c'est ce que tu as dit dans ta prière, pardon, mais la manne est aussi une figure de Jésus pain de vie, au même titre que Jacob, Joseph, Moïse, David sont des types de Jésus-Christ. Donc nous trouvons dans l'Ancien Testament des ombres et des figures des réalités célestes. Et dès lors, que peuvent représenter ces villes-refuges ? Que représentent ces villes-refuges pour nous, chrétiens, aujourd'hui ? Que représentent ces villes-refuges ? Certains analystes, certains commentateurs, eh bien, ont vu à travers le nom, la signification des noms de ces civils refuges, six qualités intrinsèques de Jésus-Christ, six caractéristiques du Christ perçues à travers la signification de ces civils. Tout d'abord, la ville de Bethser, on a lu tout à l'heure dans Josué 20, le nom des civils qui étaient affectés comme étant des villes-refuges, qui avaient été affectés comme villes-refuges. Bethser signifie forteresse. Jésus n'est-il pas notre forteresse, notre asile, notre abri, notre rocher, forteresse. Et puis la deuxième ville, c'était la ville de Ramoth. Ramoth signifie lieu élevé. Ce matin, nous avons tenté, à travers nos chants et nos prières, d'élever le Christ. Mais il est déjà élevé. Il se trouve déjà exalté et élevé à la droite de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Ramoth signifie lieu élevé. Paul écrit au Philippiens chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi Dieu l'a, en parlant de Jésus-Christ, souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. En Christ, nous sommes aussi élevés dans les lieux célestes, dira Paul en Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6. Ramoth, du lieu élevé. Ensuite, comme troisième ville refuge, il y a la ville de Golan. Et Golan, ça signifie passage. Jésus est passé du ciel à la terre, de la mort à la vie, et de par notre identification, Jésus nous fait aussi passer, avec le Christ, Jésus nous fait aussi passer de la mort à la vie. Jean chapitre 5, verset 24. Et puis la quatrième ville, c'est Kedesh, ou Kedesh, ça dépend de l'orthographe et de la prononciation, qui signifie saint. L'auteur de l'Épître aux Hébreux présente Christ comme souverain sacrificateur, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, Hébreux 7, verset 26. Les démons eux-mêmes s'écrient en Marc 1, verset 24, « Tu es le saint de Dieu » en parlant de Jésus. En Apocalypse 3, verset 7, il est appelé le saint véritable, réfugié en lui, nous aussi, nous sommes devenus saints. Saints en Christ. Troisième ville, la ville de Kedesh, qui signifie saint. Cinquième ville. La cinquième ville, c'est Sichem, qui veut dire épaule. C'est le symbole de quoi l'épaule? Bon, vous le savez bien, hein. C'est le symbole de la domination, de la puissance, de la principauté. Souvenons-nous, qu'est-il dit, que dit le prophète Ésaïe au chapitre 9, verset 5 du livre, concernant une prophétie relative à Jésus? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Et la principauté, ou bien et la domination, reposera sur son épaule. Jésus est prince. La principauté reposera sur son épaule. Il est le prince de la vie, acte 3, verset 15. Il est le sauveur, et le prince sauveur, acte 5, verset 31. Le prince du salut, Hébreux 2, verset 10. Le prince des rois de la terre, Apocalypse 1, verset 5. Il est aussi le bon berger qui porte sur son épaule la brebis que nous sommes. La brebis perdue, en l'occurrence. Jean, c'est Jean 10 ou Jean 15. Enfin, il reste Hébron, qui signifie union, communion, alliance. Hébron. Jésus, c'est Dieu, et l'homme, Jésus, c'est Dieu et l'homme réunis, unis. Jésus est parfaitement Dieu, Jésus est parfaitement homme. Jésus est pleinement Dieu, Jésus est pleinement homme, 100% homme, 100% Dieu. L'union de Dieu, homme, en la personne de Jésus-Christ. Et puis, il y a la communion. Comme Jésus est en communion avec le Père, nous aussi, nous sommes en communion avec Jésus et avec le Père. Bon, il y a plusieurs versets bibliques qui attestent de ce que je vous partage là maintenant. 1 Jean 1, verset 3. Et puis, Jésus aussi est l'initiateur d'une nouvelle alliance, une alliance qu'il a contractée par son sang. En résumé, je n'ai pas dit en conclusion encore, mais en résumé. Conclusion, ça sera pour un petit peu plus tard. En résumé, Jésus est notre forteresse. Il siège dans les lieux surcélestes, là où est également notre position. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Il est saint et nous rend saints. Jésus est le prince de la vie et la domination repose sur son épaule. Il est uni en communion avec le Père et avec nous et garant d'une alliance nouvelle contractée par son propre sang. Finalement, quel refuge pour notre âme. Quel refuge pour notre âme. Plus clairement encore, et plus interpellant encore de tout ce que je viens de vous partager là maintenant. le souverain sacrificateur de ces villes refuges, est lui aussi une image de Jésus-Christ. Souvenons-nous, dès que le souverain sacrificateur mourait, le coupable était amnistié, était rendu libre, il était libéré. Ne voyons-t-on pas à travers ce récit une annonce du ministère de Jésus qui, de par sa mort, nous a aussi libérés, délivrés, rendus libres. Le souverain sacrificateur, image de Jésus-Christ. Conclusion. Pour conclure, Jésus est notre ville refuge. Notre seul salut, c'est d'avoir Jésus comme refuge. En dehors de Jésus, nous restons sous la condamnation du péché et sous la malédiction de la loi, la lettre qui tue, qui est représentée ici par le vengeur du sang. Vous savez, quand on se promène en montagne l'été, on aperçoit qu'il y a dans les hautes montagnes des refuges. Et bon nombre de ces refuges ont été salutaires pour beaucoup d'alpinistes qui avaient été surpris par des tempêtes de neige, et qui étaient désorientés, qui étaient perdus et qui étaient en détresse. Jésus est-il ce refuge précieux pour chacune de nos âmes? Jésus est-il notre ville refuge dans laquelle nous sommes venus nous réfugier pour échapper à la mort? Et dans laquelle nous pouvons nous réfugier aussi à travers les difficultés que nous sommes susceptibles de rencontrer par les aléas de la vie? Jésus est-il notre asile dans la détresse? Jésus est-il notre ville refuge?